Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Chers amis, deuxième émission aujourd'hui en compagnie de Rémi Brague, professeur émérite de philosophie à la Sorbonne et à l'Université Ludwig-Maximilien de Munich, autour de son livre sur la religion. Alors, deuxième partie, dans la première partie, il y a 15 jours, nous avions évoqué le terme de religion et puis évidemment les relations ou la réflexion que l'on peut avoir sur les relations entre l'Église et l'État. Aujourd'hui, un sujet très actuel, je dirais aussi, puisque nous sommes à deux jours de Noël et le Christ est désigné comme le soleil de justice par la tradition exégétique. Ce sera donc le droit et la religion, un chapitre qu'on trouve dans le livre de Rémi Brague. Et je voulais donc vous demander de commencer par poser ou juxtaposer, je ne sais pas, ces deux termes.
Droit et religion. Eh bien, ce qui est intéressant, justement, c'est qu'il y en a deux dans le christianisme. Deux réalités séparées. Si vous voulez, je partirai d'une constatation qui est assez souvent négligé, c'est ce fait finalement négatif que le Christ n'a apporté aucun commandement nouveau. Il y a un passage de l'évangile de Jean, ça doit être au chapitre 13 si ma mémoire est bonne, dans lequel il a cette phrase extraordinairement audacieuse, « Je vous donne un commandement nouveau ». C'est-à-dire exactement ce qu'un pieux juif ne ferait en aucun cas. C'est criminel. Enfin, une telle tentative serait punie d'une lapidation immédiate. Et puis ce commandement nouveau, eh bien, c'est une citation du Lévitique 19-18, si ma mémoire est bonne, à savoir « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Ce que l'hébreu, qui n'a pas de pronom réfléchi, exprime par l'idée de prochain, eh bien, le grec, qui lui a la chance de pouvoir dire alléloï, bon, eh bien, dit aimez-vous les uns les autres. Mais c'est exactement la même idée. Seulement, il y a quelque chose qui vient s'ajouter et que le Christ ajoute juste après, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et alors là, ça change tout. En ce sens que le commandement de respecter, enfin d'aimer si l'on veut, de vouloir le bien de l'autre s'enracine ou prend sa source, si vous préférez, dans le sacrifice de la Pâque, dans le fait que le Christ a donné sa vie pour nous. Et donc, ça la donne à un commandement dont le contenu reste le même, une ampleur et une profondeur tout à fait différentes. Une ampleur plus grande parce que ça ne s'adresse plus seulement aux membres de la même tribu, si je puis dire, ce qui était un petit peu le cas dans l'Ancien Testament. Il suffit de regarder le contexte pour voir qu'il en était ainsi. Cela s'élargit à tout homme et cela s'approfondit parce que, eh bien, se conduire d'une manière telle que l'on veuille le bien d'autrui pour lui-même s'enracine alors dans cet acte suprême de bienveillance qu'a été le sacrifice du Christ. Et c'est d'autant plus intéressant que, bien souvent, lorsque l'on parle de religion, lorsque l'on dit aux gens, ben voilà, il serait peut-être bien que vous adoptiez cette religion-là, la première question c'est qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse ? Bon, la question a été posée aux apôtres juste au lendemain de la Pentecôte. Bon, et leur réponse va être simplement, faites-vous baptiser. Mais il n'y a rien, d'une certaine manière, rien à faire. Il n'y a pas à s'habiller d'une manière particulière, se nourrir d'une manière particulière. Il faut, d'une certaine manière, se contenter, je mets ça entre guillemets, se contenter de la morale commune. Les 10 commandements. Seulement, l'ennui, c'est que justement, nous n'y arrivons pas. Le problème du christianisme, ce n'est pas qu'il va falloir édicter de nouveaux commandements, c'est qu'il va falloir essayer de ne pas trop transgresser ces commandements tout à fait élémentaires qui permettent la survie et le bien-être et la véritable humanisation, si l'on peut dire, des êtres humains. Le problème du christianisme, c'est celui qui est posé par saint Paul. Le bien, je sais très bien ce que c'est, mais je le fais pas. Le mal, je sais très bien ce que c'est, j'en ai horreur, mais je le fais quand même. Bon, alors quelles vont être les solutions? Eh bien, la réponse chrétienne est double. C'est la miséricorde, d'une part. Et puis, c'est ce que les uns appellent le Saint-Esprit. Les catholiques parlent de la grâce, mais c'est quand même assez souvent la même chose. Donc, ce sont des aides surnaturelles qui vont nous permettre de faire ce que, naturellement, nous devrions pouvoir faire et que nous n'arrivons à faire que de manière boiteuse et approximative. Donc, ce qu'il y a d'extraordinaire dans le christianisme, si je puis dire, c'est justement qu'il n'y a pas de loi nouvelle. Il y a un nouveau testament, une nouvelle économie du salut, mais il n'y a pas de nouveau commandement. Alors, ce qu'il y a de remarquable, justement, c'est que le christianisme fait confiance à la raison et à la liberté humaine pour savoir ce qu'il est bon de faire, pour savoir de quelle manière s'habiller, de quelle manière se nourrir, etc. Nous avons simplement besoin, et urgemment et ardemment besoin, d'une aide venant de Dieu pour pouvoir tout simplement y arriver. Donc il n'y a pas de loi d'une certaine manière. Alors ça n'est pas le mystère d'iniquité, ça n'est pas l'anomie, mais c'est le fait que cette loi que nous connaissons très bien, nous n'arrivons pas à la respecter sans l'aide divine.
Souvent, dans la conception du droit, de l'Église ou du droit divin, une juxtaposition entre le droit divin et le droit humain. On le voit déjà dans l'Antiquité, et il a cette idée qu'il y a un droit divin qui peut être différent de celui que les hommes ont choisi pour régler leur vie. Alors, vous avez une manière d'organiser ça, de répartir dans votre livre, que vous présentez par un triangle. Je vois, il y a le droit naturel, et il y a le positivisme juridique et la loi divine.
Oui.
Alors, qu'en est-il au fait ?
Ah, écoutez, alors là, ça serait vraiment quand même un petit peu long de l'expliquer. Je voudrais simplement attirer l'attention sur le fait que la notion de droit divin, le caractère de divinité attaché à des règles, disons, morales, c'est effectivement une idée très ancienne, mais qui a changé de sens d'une manière assez radicale lorsque l'on est passé de ce que l'on appelle, peut-être pas d'une manière très juste, le paganisme, aux religions révélées. C'est que dans le fameux passage d'Antigone auquel tout le monde pense, et dans lequel Antigone explique à son oncle Créon que si elle a voulu rendre les honneurs funèbres aux méchants des deux frères, à Polynice, qui est mort en attaquant sa patrie, eh bien, c'est pour obéir à une loi qui n'est pas celle de la cité et dont personne ne sait d'où elle s'origine. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cette loi, elle est divine dans la mesure même où elle est évidente, dans la mesure même où elle n'a pas à être révélée. Dans la mesure même où elle va de soi, ce sont des choses qui ne se font pas, si vous voulez. Enfin, laisser un mort se laisser dévorer par les corbeaux, escoracas, comme il disait en grec ancien, c'est-à-dire va te faire voir, ça ne se fait pas. Alors que dans les religions révélées, justement, nous avons besoin d'une révélation pour savoir ce qu'il faut faire. Le divin, dans la Grèce ancienne, est évident. Les dieux de la Grèce, comme disait Schiller, c'est-à-dire ce sont les dieux du paysage. Ils existent de la même manière que l'Olympe. Il n'y a pas besoin de croire en eux, d'une certaine façon. En revanche, le dieu des religions révélées, lui, justement, parce qu'il est essentiellement personnel et donc essentiellement mystérieux, toute personne est mystérieuse, et nous aussi d'ailleurs, nous personnes humaines, comme il est mystérieux, on ne peut avoir accès à lui que dans un acte de liberté. C'est ce qu'on appelle la foi. Bon. Donc, ce droit divin, bah, ça n'est plus le même que cette loi divine ou quasiment naturelle que connaissaient les anciens. C'est toute une économie du salut qui doit être mise en place, tout un dispositif, alors dans le christianisme, assez compliqué, assez paradoxal, hein, puisque bon, que le salut puisse requérir l'incarnation du Verbe et le sacrifice de la croix, bon, ce sont des choses qui ne vont pas de soi et dans lesquelles il faut, si je puis dire, entrer par un acte de foi.
Juste pour terminer, est-ce qu'on peut dire que l'idée de droit et de justice, je dirais, dans l'Église, est une idée qui peut correspondre au droit humain, au droit civil, au droit séculier?
Ah, c'est une question qu'il faudrait quand même déjà adresser au droit séculier lui-même, lui demander s'il est bien en accord avec la justice, pas la justice qui se passe dans les tribunaux, où il y a des messieurs graves et dans une tenue un petit peu particulière qui énoncent des règles, mais cette justice qui eh bien, s'enracine au plus profond de la conscience humaine. J'emploie là aussi avec des pincettes le mot de conscience, parce que maintenant, assez souvent, on réduit la conscience finalement au caprice. Hein, quand on dit, bah voilà, c'est mon choix, me cassez pas les pieds, c'est ma conscience, bon, alors ça veut dire simplement, bah, j'ai envie de faire ça, et je le ferai quoi qu'il arrive. La conscience, c'est quelque chose de bien plus exigeant que cela. Hein. Elle demande à se nourrir de la sagesse humaine, de la grâce ou de l'Esprit Saint, enfin de se nourrir d'aliments divins, si l'on peut dire, pour arriver à sa pleine maturité. Alors, le fondement dernier de la justice, eh bien, c'est cela. Je me suis amusé à un moment, dans un autre livre, je crois que celui-là, à dire que finalement il n'y avait de régime politique que théocratique. La différence étant qu'il y a d'une part des théocraties dans lesquelles Dieu parle dans un livre, dans le Coran par exemple, et puis il y a des théocraties, c'est la théocratie, ce que j'appelle la théocratie chrétienne, dans laquelle Dieu parle dans la conscience. Et c'est lui, donc tel qu'il parle dans la conscience, qui est le juge dernier, par rapport auquel tous les juges humains, malgré leur hermine ou leur bonnet, bon, ben, ne sont que des petits garçons.
Écoutez, merci beaucoup. C'est ainsi que nous terminons cet entretien. Alors, c'était sur le livre « Sur la religion » de Rémy Brague, paru cette année chez Flammarion. Et écoutons maintenant le tropaire de la fête de Noël par la chorale Saint-Jean Damascène, dirigée par Serge Sauret, dont voici le texte. Ta nativité au Christ, notre Dieu, a fait resplendir dans le monde la lumière de la connaissance. En elle, les serviteurs des astres, enseignés par l'étoile, apprennent à t'adorer, toi, soleil de justice, et à te connaître, Orient venu d'en haut. Seigneur, gloire à toi. Et voici maintenant le message de Noël du métropolite Emmanuel, président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France.
Chers frères et sœurs, puissions-nous en ce jour écouter la voix de l'ange qui nous invite à ne plus craindre. Qui donc pourrions-nous craindre aujourd'hui, puisque le Messie est né à Bethléem? Le Messie est né à Bethléem? Oui, parce qu'il fallait que soit ratifié de façon définitive les prophéties séculaires, celles qui promettait à un peuple choisi l'avènement de son roi. Mais cet avènement royal, cette naissance à Bethléem, nous a donné à voir un bien plus que la venue d'un guide du peuple. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. En effet, comment les nations et la terre habitée auraient-elles pu concevoir un instant que la naissance d'un roi de Judée devait changer l'ordre du monde? Dans l'anéantissement d'un Messie, qui s'élève émailloté de l'ange et déposé dans une mangeoire à l'obscur d'une grotte, comment discerner la venue d'un roi de gloire? S'entretient-on de sagesse avec un nourrisson? Comment élaborer une stratégie pour rétablir le royaume de Dieu sur terre avec un nouveau-né? Eh bien, c'est qu'il fallait que Dieu donne toute la mesure de sa puissance dans la faiblesse et que l'homme, en prenant la mesure de son néant, fut relevé par la seule grâce de Dieu. C'est ce que fit le Logos divin lorsqu'il s'est revêtu de chair pour atteindre l'homme dans sa chair et lui communiquer l'amour du Père et la communion de l'Esprit qui surpasse tout langage et bannisse toute crainte. Car il fallait guérir le semblable par le semblable. En naissant à Bethléem, le Verbe, qui était avec le Père dès avant la fondation du monde, a donné la paix à tous les peuples de la terre. Car c'est lui notre paix, lui qui de deux peuples n'en a fait qu'un, détruisant la barrière qui les séparait pour créer en sa personne le deux en un seul homme nouveau. Le royaume qu'inaugure en ce jour le soleil de justice a fait de tous les hommes un peuple souverain en les faisant fils de Dieu, car à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Toutefois, être enfant de Dieu ne paraît pas si simple en ces temps troublés. Tout comme l'ancêtre du Seigneur, le roi David, nous nous demandons pourquoi ce tumulte de nations, ces vents murmurent de peuples. Le roi de la terre se dresse, les grands se liguent entre eux contre le Seigneur et son Messie. Faisons sauter nos chaînes, rejetons ses entraves. Mais voici que David entrevit par avance la divine économie du mystère qui devait nous donner la paix dans le monde de division, de guerre, de mensonges et d'hypocrisie. Celui qui règne dans les cieux s'en amuse, le Seigneur les tourne en dérision, puis il leur parle avec fureur et sa colère les épouvante. Moi, j'ai sacré mon roi sur Sion, ma sainte montagne. Je proclame le décret du Seigneur. Il m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui, je te engendré. Le voilà donc cet objet d'épouvante pour le monde. Un enfant nouveau-né dans une grotte, c'est en effet une terrible défaite pour les prétentions de la sagesse humaine et un scandale, le zèle de la piété, car Messie dans une étable est un Dieu qui se laisse toucher. Dieu nous invite donc en ce jour à renaître à nous-mêmes, humblement, car il est avec nous, le manuel. Il est la voie, mais c'est à nous à la parcourir sans crainte de lendemain, ni souvenir du chemin parcouru. Il s'agit d'aller à sa rencontre chez nous, car il n'y a plus d'ailleurs où le chercher, puisqu'il a dressé sa tente parmi nous. Soyons des porteurs d'espérance, en rendant, pour ainsi dire, palpable la joie et la paix qu'est la venue du Verbe dans le monde a procuré à tous les hommes. Accueillons ce nouveau-né chez nous aujourd'hui, en le reconnaissant sous les traits le plus vulnérables des migrants, des exilés, nous rappelant sa parole. Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez faite à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez faite. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, le Christ est né et nous vivons à lui. Participant au mystère de l'abaissement du vin et de l'incarnation, nous vous souhaitons de bonnes fêtes renouvelées et imprégnées que nous sommes par la grâce et la vérité du Père Céleste qui se manifeste en Jésus-Christ par le Saint-Esprit, le Consolateur de la vie de l'Église. À mon nom personnel et au nom de mes frères évêques, membres de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, je vous souhaite une très belle et lumineuse fête de la Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ.
C'était le message de Noël du métropolite Emmanuel, président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Nous terminons cette émission en présentant à tous nos vœux pour la fête de la Nativité et les autres fêtes de la fin d'année. Ainsi prend fin à Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Christostalis. Chargée de réalisation, Anne Pérez. Prise de son, Marie Lepeintre. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Et voici maintenant le service protestant.